Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Nous sommes le 23 janvier 2021. Voici quelques informations liminaires à ceux dont on va parler sous peu. De 1961 à 1975, 80 millions de litres de défoliants ont été épandus sur le Vietnam afin de déloger la résistance de ces caches. 80 millions de litres d'herbicides déversés et plus de 2 500 000 hectares contaminés. Ces épandages ont détruit 20% des forêts du sud du Vietnam, pollué 400 000 hectares de terres agricoles. S'y ajoute la destruction de plus d'un million d'hectares de forêts tropicales, la disparition d'une faune abondante, des éléphants, des tigres, rhinocéros, des antilopes, des gors, des oiseaux, des serpents, des papillons et une multitude d'insectes. Presque 5 millions de personnes ont été directement exposées aux défoliants, à l'agent orange, et plus de 3 millions en subissent encore les conséquences. Des centaines de milliers d'enfants, des 3 et 4e générations d'après-guerre, vivent avec ces malformations, absence de membres, cécité, surdité, tumeurs externes, sans parler des fausses couches, des morts-nés et des naissances prématurées qui s'accentuent dans les régions les plus touchées. Des lignées familiales continuent donc de s'éteindre au fur et à mesure que la dioxine s'accumule dans les organismes. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec Tom. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alors tu vas te présenter en quelques mots, mais on peut déjà dire l'adresse internet du collectif duquel tu fais partie, qui est le collectif Vietnam Dioxine. C'est www.vietnamdioxine.org. Alors voilà, voudrais-tu, pour commencer, nous dire quelques mots de toi, qu'est-ce que tu fais dans cette association-là et comment est-ce que tu en es arrivé là?
Alors, du coup, moi, donc, je m'appelle Tom, je suis membre du collectif Vietnam Dioxine, je suis membre depuis pas très longtemps, puisque je l'ai rejoint en 2020. J'ai découvert, en fait, donc, cette cause il y a 3 ans, lors d'une conférence, en fait, où Trentonia, dont on parlera plus tard, présentait, en fait, l'agent orange et puis le procès qui était en cours. Donc c'est comme ça que j'ai connu et puis j'ai mis un peu de temps à le rejoindre, mais ensuite j'ai rejoint parce que c'est vrai que s'approchait le procès historique et il y avait besoin d'une mobilisation assez forte. Donc avec pas mal de jeunes, on a décidé de le rejoindre.
Très bien. Alors effectivement, tu viens de mettre le doigt sur ce dont on va parler. Il y a un procès historique qui va se tenir sous peu. Pour ceci, il y a un rassemblement qui est prévu. On va immédiatement l'annoncer. C'est donc sur la place du Trocadéro à Paris à 14h30 le 30 janvier.
C'est ça.
Et à ce moment-là, eh bien, l'idée, c'est de faire un rassemblement de soutien aux victimes de l'agent orange. Et j'imagine effectivement d'annoncer, de parler de ce procès.
Exactement, c'est ça.
Alors voudrais-tu peut-être nous dire, nous présenter un petit peu la figure tutélaire qui est Trần Tuấn Nga, si je prononce bien.
C'est ça. Alors déjà, Trần Tuấn Nga, donc aujourd'hui a 78 ans, c'est une ancienne résistante et journaliste vietnamienne. Donc en fait, c'est une victime directe donc de l'agent orange, puisqu'en fait, quand elle était agente de liaison durant la guerre du Vietnam, elle a subi en fait l'épandage d'agent orange, voilà. Mmh. Et puis donc, elle a mis un certain temps en fait à se rendre compte finalement que cet agent orange avait des conséquences, parce que comme elle le dit dans son livre, ma terre empoisonnée. Bah, au début, elle savait pas forcément que ce qui lui arrivait, parce que après, elle a pas le son bébé, c'était lié directement à l'agent orange. Il a fallu un certain temps. Mmh. Et puis quand elle s'en est rendue compte, elle s'est rendue compte qu'elle avait plusieurs symptômes et que ces symptômes en fait étaient directement liés à l'agent orange. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, notamment entre les années 2000 et 2010, où en fait en France il y a eu un tribunal d'opinion qui a été en fait lancé par André Bouny, qui est une des figures de la lutte contre l'agent orange, elle a pu rencontrer notamment Maître William Bourdon. Et avec André Bouny, que ces deux personnes, en fait, elle dit que ces personnes forment un peu les trois mousquetaires. Ils ont décidé, voilà, en 2014, d'intenter un procès contre les fabricants d'agent orange, puisqu'en fait, il y avait une particularité qui avait été possible dans la législation française, c'est-à-dire que quand François Hollande était au pouvoir et que Taubira était ministre de Justice, il y a eu un changement qui faisait que les personnes qui avaient la nationalité française pouvait porter plainte pour des crimes qui étaient commis hors du territoire français. Et c'est pour ça qu'elle a pu porter plainte, intenter un procès contre ces fabricants de l'agent orange. Donc les fabricants ou les entreprises ayant commercialisé comme notamment Monsanto, qui est assez connu pour d'autres faits, notamment le glyphosate, les OGM, etc., ou encore Dow Chemical.
Oui, parce que je crois qu'il est question de 26 multinationales qui ont été assignées, dont 14 seront présentes au procès.
C'est ça. Alors, initialement, en fait, il y avait donc 26 firmes, et puis au fur et à mesure, des rachats, des fusions, etc., ce nombre a diminué. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, on aura 14 firmes qui seront présentes le jour J, donc le jour du procès, le jour des plaidoiries. Puisque c'est un procès qui dure depuis 2014, mais entre 2014 et 2020, c'était surtout des audiences de mise en état. Donc c'est ça concerne l'instruction du dossier. Tous les parties donnent leurs arguments déjà sur la forme et sur le fond. Et puis là, c'est vraiment le moment où s'ouvre le procès, où finalement c'est l'opinion publique qui peut prendre connaissance des différents arguments de la partie de Trintonia et de ses trois avocats. Donc voilà, il y a trois avocats plus Trintonia face à ces multinationales représentées par 38 avocats.
Peut-on dire que c'est là un petit peu un procès de la dernière chance, dans le sens où effectivement la population vietnamienne a été muselée durant ces années-là, et aujourd'hui encore on voit bien que les effets de l'agent orange se répercutent sur l'environnement et sur la population, mais qu'il y a tout de même d'une certaine partie un déni de parole, et que ce procès c'est un petit peu le dernier moment, parce qu'il a fallu également arriver à ce que cette plainte soit recevable.
Effectivement, on peut dire que c'est un peu effectivement le procès de la dernière chance, et là je vais prendre un exemple assez parlant. Les associations des victimes vietnamiennes de l'agent orange ont essayé de porter plainte aux États-Unis, donc ils sont allés aux États-Unis et ils ont voulu porter plainte. Donc c'était dans les années entre les années 2000 et 2010, plus précisément en 2009 en fait, la Cour suprême des États-Unis a débouté les victimes vietnamiennes de leur plainte. Donc, les victimes vietnamiennes avaient porté plainte contre 37 entreprises à l'époque et ont fabriqué ou livré ce défoliant. Et en fait, la justice américaine, la Cour suprême, estimait qu'en fait, l'agent orange n'était pas un poison. Voilà, tout simplement.
D'accord.
C'était l'argument qui avait été donné à l'époque. Alors même que dans les années 80, précisément en 1984, les anciens combattants américains ont eu en fait une indemnité de 180 millions de dollars finalement. C'est 180 millions de dollars qui ont permis d'acheter leur silence pour que ces victimes, donc ces vétérans américains, ne puissent pas témoigner pour les victimes de l'agent orange, des victimes vietnamiennes. Les victimes vietnamiennes n'ont jamais été indemnisées, n'ont jamais obtenu justice, alors même que les vétérans ont obtenu finalement un dédommagement. Voilà. Donc voilà.
Donc on peut vraiment dire que là, il y a eu l'achat du silence d'une certaine manière. D'accord. Alors, donc on l'a dit, le procès débute quand ?
Alors le procès, donc les plaidoiries du procès ont lieu le lundi 25 janvier, donc à 9h, au tribunal judiciaire d'Evry, qui se situe à peu près à 30 km de Paris. Mais ce procès a débuté en 2014.
D'accord.
Donc, c'est depuis 2014 que Trintonia et les trois avocats ont intenté ce procès.
Voilà, donc au moment de l'assignation, c'est 2014.
Voilà.
Alors, on va le rappeler, le rassemblement, lui, aura lieu donc le samedi 30 janvier à 14h30, place du Trocadéro.
C'est ça.
Et puis, il y a également une pétition que vous lancez.
Effectivement. Alors, cette pétition, on l'a lancée donc l'été dernier, parce qu'en fait, l'été dernier, donc le 10 août, c'est la journée internationale des victimes de l'agent orange. Et à cette occasion, on avait lancé donc un événement en ligne, donc 36 heures non-stop, à la fois en France et au Vietnam pour récolter du soutien pour les victimes de l'agent orange. Et on a lancé une pétition qui aujourd'hui rassemble environ 7000 signataires, sachant que auparavant on avait une pétition qui tournait, mais c'était une pétition qui était écrite où on avait à peu près plusieurs milliers de signatures, il me semble 2000-3000 si je me trompe pas. Voilà. Et donc cette pétition, on va aussi la relancer parce que là donc compte tenu aussi des conditions sanitaires et les fêtes que lundi, il n'y aura pas de rassemblement devant le tribunal, mais il aura lieu donc le 30 janvier, donc au place du Trocadéro. On veut aussi lancer une grande finalement campagne en ligne sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui ça passe beaucoup par les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, on est présent sur les trois et on relèvera cette pétition pour espérons atteindre peut-être 10 000 voire plus pour que les victimes de la Lorange puissent voir que les gens les soutiennent à obtenir justice pour pour des réparations. Parce que c'est aussi de ça dont il s'agit.
Bien sûr, bien sûr. Le site internet, c'est www.vietnamdioxine.org. Tu as dit que vous étiez sur les réseaux sociaux, lesquels ?
Alors, on est sur Facebook. Où vous tapez donc collectif Vietnam Dioxine et vous avez accès donc à notre page Facebook. On est aussi disponible sur Twitter et sur Instagram. D'accord. Pareil, vous tapez collectif Vietnam Dioxine, vous devrez notamment voir ce qu'on fait. Et notamment, on a lancé par exemple différents filtres, donc pour que vous puissiez mettre ça sur votre profil si vous voulez, ou sur Instagram aussi pour aussi multiplier les moyens de soutenir Trentonia.
Très bien, très bien. Que peut-on attendre, selon toi, de ce procès ?
Alors, ce procès, déjà, c'est un procès historique. Il est historique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme on l'a dit, il n'y a jamais eu de firmes qui ont fabriqué ou commercialisé l'agent orange qui ont été condamnées, ça c'est la première chose. Il est historique aussi parce qu'en fait, l'agent orange, c'est souvent cité comme l'agent orange, c'est un peu le premier exemple d'écocide. Alors je dirais pas que c'est le premier écocide, parce qu'avant il y a eu d'autres événements comme la colonisation et tout ça, et que c'était pas le premier écocide. Mais par contre, c'est souvent cité comme étant le premier exemple d'écocide dans l'histoire moderne. Et ça c'est assez important. Et je pense que le fait que des firmes puissent être condamnées pour des dégâts qu'ils ont fait à la fois aux humains et aux non-humains, puisque il s'agit aussi donc d'atteinte à la faune et à la flore. Ça permet aussi, je pense, de dire aux autres personnes qui ont vécu ce genre d'écocide, de catastrophe, que finalement une entreprise ne peut pas être impunie pour ça, et que finalement il y a une sorte de justice. Donc c'est aussi un combat pour la justice pour la justice environnementale. Et donc, nous, on pense évidemment que ce procès sera très compliqué, hein, puisque il y aura 38 avocats face à 3 avocats pour tenir en face, et que dans tous les cas, ça sera un combat qui sera encore long, hein, parce que là, il y a la plaidoirie, mais on peut imaginer que le verdict sera dans quelques mois. Et que ce soit Trentonia qui gagne, ou que ce soit les firmes qui gagnent, il y aura un appel, et que ça puisse continuer encore plusieurs années comme ça, parce qu'on n'imagine pas que les entreprises comme Monsanto, par exemple, puissent entrevoir un espoir pour des victimes d'imbéciles, de pesticides, parce que ça ouvrirait la possibilité à d'autres victimes de porter plainte après, et pour elles, ce serait un peu un monstre qui serait libéré, et que pour elles, ça serait assez compliqué. Sachant qu'il y a quelque temps, il y a Paul François qui a obtenu une condamnation de Monsanto pour le glyphosate, et donc c'est aussi important de poursuivre dans cette direction là à la fois pour les victimes de l'agent orange et à la fois pour toutes les victimes finalement de produits chimiques qui sont finalement parfois très toxiques.
Oui. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Que dire ? On a déjà dit en quelques mots ce qu'était avec l'agent orange. Hein, donc c'est un herbicide qui contient de la dioxine, et c'est cette dioxine-là qui est extrêmement toxique, hein, qui cause des malformations, mais également des maladies de la peau, du cerveau, du système nerveux, des maladies congénitales également. Alors, on l'a dit également, c'était en fait une guerre chimique, hein, en 1961-1962, où cet agent orange était utilisé pour, démasquer, en tout cas empêcher les résistants de se cacher là. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la figure de Trentonga, au moment où elle, parce que je crois qu'elle est très jeune au moment où elle entre dans la résistance, elle prend la pistochimine, et puis elle est intoxiquée.
Effectivement, Trentonia, comme elle le dit dans son livre, c'est une fille de la colonisation, c'est une fille de la guerre. Et en fait, très tôt, elle s'engage finalement pour une lutte pour l'indépendance. Donc à l'âge de 13 ans, elle est envoyée par sa mère à Hanoï pour la mettre à l'abri d'une arrestation, parce qu'à l'époque, elle était aussi engagée sur ce genre de lutte, et finalement elle a été contaminée donc en 1966. Alors sachant qu'elle était qu'elle est née en 1942, donc elle avait 24 ans quand elle a finalement subi ce nuage blanc c'est l'entrée dans le ciel qui était en fait de la orange. Donc comme elle le dit, voilà, c'était une pluie gluante. Elle a eu une quinte de toux et puis ensuite elle a oublié ce qui s'est passé. Et donc elle a été touchée très tôt dans sa jeunesse et finalement et dès ce moment-là, ça a quand même bouleversé sa vie. Enfin ça a quand même atteint elle, mais aussi sa lignée puisqu'elle a perdu un enfant comme j'ai déjà dit.
Oui.
Mais aussi ses deux filles sont atteintes aussi de symptômes, notamment il y a une de ses filles qui a ce qu'on appelle la tératologie de Fallot, et puis l'autre qui a eu aussi des problèmes de santé, donc notamment il y a les filles de Trentonia qui sont atteintes de malformations cardiaques, de malformations osseuses, et puis même elle, donc Trentonia, a souffert de cancer, de tuberculose, ce qu'on appelle de l'alpha-thalassémie. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui l'a suivi toute sa vie et qui encore, voilà, elle a 78 ans et puis pour elle c'est aussi une vraie, c'est un vrai combat déjà pour sa santé et puis aussi voilà contre ces fabricants de la orange finalement qui aussi a un certain intérêt à ce que ce procédure dure parce que voilà Trentonia aujourd'hui est très malade et que voilà c'est
difficile évidemment pour elle.
Mais
alors justement, quel est son état d'esprit au vu de ce qui se passe maintenant et de cette résurgence avec ce procès de tous ces événements-là ? J'imagine qu'elle est d'un côté contente d'une certaine manière de voir que son combat, eh ben finalement tout le combat qu'elle a mené, le combat de sa vie, eh bien prend forme. Et en même temps, eh bien elle doit être peut-être à bout, peut-être fatiguée. Dis-nous un petit peu son état d'esprit.
Alors déjà, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que Trentonia, c'est une personne très inspirante et que si on devait la qualifier par certains mots, c'est la détermination parce qu'en fait, elle sait certes que c'est son procès. Donc lundi, on va parler d'elle, mais finalement, c'est un procès pour les victimes de la orange et c'est ça aussi qui lui donne de la force parce que elle a aussi rencontré finalement de nombreuses victimes de la orange au Vietnam, donc des personnes, beaucoup d'enfants handicapés, hein, parce que là vraiment on parle d'enfants qui n'ont pas accès à une qualité de vie, suffisante. Il y a des personnes qui ont des conditions effroyables. Donc elle sait aussi qu'elle se bat pour toutes ces personnes et que finalement elle n'est pas toute seule, parce qu'il y a beaucoup de personnes donc au Vietnam qui la soutiennent et puis en France elle a aussi beaucoup de soutien. Donc c'est vrai que c'est un combat qui a été long parce que pendant 6 ou 7 ans, ce procès n'était pas ouvert au public et effectivement, y a, je pense qu'il y a des moments où elle a pu se sentir seule, bien qu'il y a quand même des gens qui l'accompagnent depuis des dizaines d'années. Hein. La mobilisation, elle n'est pas nouvelle. Il y a des filets de soutien, que ce soit à travers son comité de soutien ou des personnes qui sont dans le collectif Vietnam Dioxine depuis des dizaines d'années. Donc elle ne s'est pas toute seule. Mais je pense que ce qui la caractérise, c'est vraiment sa détermination et à la fois son courage, parce que c'est aussi parler d'elle, ses souffrances, et puis c'est finalement c'est mettre à la lumière toutes ces choses là. Et elle sait très bien que finalement les entreprises vont venir l'attaquer sur des choses, sur des détails pour essayer de la décrédibiliser, etc. Donc ça c'est aussi compliqué quoi.
Ouais.
Et puis c'est pas fini parce que il y aura sûrement aussi des expertises médicales, hein, parce que quand là c'est un procès qui est au civil, donc en fait l'enjeu majeur c'est de prouver au juge que finalement que ces maladies sont liées à la orange, donc finalement elle va aussi être après scrutée, analysée, il peut y avoir une expertise, une contre-expertise, donc ça c'est des choses qui peuvent encore rajouter disons de la charge mentale sur ce qu'elle fait à elle, mais en tout cas elle le dit. Elle ne lâchera rien jusqu'à la fin de sa vie.
Ouais, le mot détermination, comme tu l'as dit, est peut-être le plus emblématique. Dis-moi, le lundi 10 août 2020 a eu lieu la journée officielle des victimes de l'agent orange.
C'est ça.
Donc, un moment de mobilisation de mémoire pour l'ensemble des victimes au Vietnam. Est-ce que cette date sera reconduite ? Est-ce que tous les lundis 10 août, peut-être, y aura-t-il un moment pour marquer ce temps-là et pour refaire surgir cette mémoire collective qui est un petit peu manquante ?
C'est ça. Et donc là, vous parlez de mémoire et c'est très important finalement parce que ce qui est important, c'est que ce drame de l'orange ne tombe pas dans l'amnésie collective. puisqu'en fait, on peut se dire, bon, la guerre du Vietnam a été finie dans les années 70, donc c'est fini, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait, l'agent orange, comme le dit Tu Tien Ho, dans son documentaire, l'agent orange, une bombe à retardement, c'est une bombe à retardement. Donc les effets se manifestent à la fois pour les victimes aujourd'hui qui sont encore survivantes, mais pour les lignées en fait, pour la deuxième, la troisième génération. C'est vraiment une atteinte aux lignées. Parfois, on peut dire que c'est vraiment une extermination finalement de la lignée de cette personne-là. Donc nous, le collectif Vietnam Dioxine, effectivement, on va organiser une grande mobilisation encore. J'espère qu'on sera débarrassé de cette crise sanitaire, mais c'est pas très sûr. Parce que en fait, cette année, donc en 2021, ça sera les 60 ans du premier épandage de l'agent orange.
D'accord.
Donc par rapport à ça, on veut aussi donc marquer le coup et puis finalement mobiliser tous les militants, les artistes, tous les personnes qui nous soutiennent pour essayer de faire quelque chose pour porter encore plus la voix des victimes de l'agent orange. Parce que Trintonia, c'est une figure de la lutte contre l'agent orange, mais on doit aussi penser à tous les autres victimes qui n'ont pas forcément ces paroles-là. Et donc, il y a aussi un enjeu, voilà, à leur donner la parole, et puis à manifester, voilà, de la solidarité, et surtout de l'aide, parce que finalement, concrètement, ils ont aussi besoin, donc, d'aide financière. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va faire l'été prochain.
D'accord. Caro, une question à toi.
Oui, je pense que votre travail est très 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 important parce que la population n'est pas forcément, enfin l'opinion publique n'est pas forcément au courant de, enfin il sait, on est vaguement au courant qu'il y a eu l'agent orange, mais je pense qu'on connaît pas les détails. Quelle est la forme? Est-ce que vous allez continuer votre lutte après le procès? Puis quelle est la forme que va prendre votre lutte après?
Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc nous on a plusieurs projets, donc évidemment de continuer à faire la sensibilisation, la mobilisation, on parlait, etc. Et puis on a aussi un autre projet finalement qui est d'identifier finalement d'autres victimes de l'agent orange, puisqu'en France il y a une diaspora vietnamienne qui est assez importante, hein, puisque voilà, donc le Vietnam, on n'oublie pas, a été colonisé donc par la France, et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fui la guerre, qui sont réfugiées en France après. Donc, en France, je crois qu'il y a à peu près 100 000 personnes dans la diaspora. Donc il y a aussi un enjeu finalement d'identifier ces autres victimes de l'agent orange, parce que demain ça sera peut-être des personnes qui pourront aussi porter cette lutte, ou si ce procès est reporté, ils pourront aussi peut-être donc porter plainte contre les firmes qui ont fabriqué ou commercialisé donc l'agent orange, voilà. Donc ça c'est deux choses, et la troisième chose, c'est aussi finalement on a envie surtout de créer des ponts avec d'autres luttes, ce qu'on fait déjà, parce que là on parle de justice environnementale, alors on est assez proche de collectifs par exemple comme le chlordécone. Parce que voilà, il y a un enjeu assez fort aujourd'hui. Donc, le chlordécone, pour rappel, c'est un pesticide qui a été utilisé donc dans les bananeraies, donc aux Antilles, donc notamment en Martinique et en Guadeloupe. Et aujourd'hui, donc ces collectifs demandent voilà des réparations. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a près, il y a plus de 90% de la population en Guadeloupe et en Martinique qui sont touchés par le chlordécone. Donc ça, c'est le genre de pont qu'on veut faire. Et aussi avec finalement des collectifs, des organisations qui sont écologistes, mais pas que écologistes, hein, parce que nous on pense aussi que ce combat de Trintonia, c'est aussi un combat qui est évidemment écologiste, qui est environnemental, mais qui est aussi antiraciste, parce qu'on peut pas non plus nier tout l'imaginaire qu'il y avait autour de cette guerre du Vietnam dans les années 70. Donc voilà, nous on veut vraiment faire des ponts, et puis aussi pour soutenir de lutte, et puis qu'on puisse avancer tous ensemble. Et notamment, par exemple, pour faire reconnaître ce crime d'écocide, que ce soit à l'échelle voilà, française, européenne, mondiale, pour que demain, finalement, ce genre de drame ne puisse plus survenir, quoi, c'est ça. Ouais. Ça va vraiment servir le futur et les générations suivantes, quoi. C'est pas juste quelque chose du passé qu'on va réparer, c'est aussi ne pas venir réparer reproduire ce qui a été produit dans le passé. Mmh.
Puis quand vous parlez de convergence de lutte et créer des ponts, est-ce que c'est imaginable de créer des ponts avec des militants aux États-Unis? Parce que l'opinion publique aux États-Unis pourrait, enfin, comme ils sont en partie responsables, ils pourraient aussi faire qu'aux États-Unis il y ait des procès et que ces procès soient gagnés.
Effectivement, alors par contre, c'est vrai que dans les années 2000, du fait que la Cour suprême a débouté les victimes vietnamiennes de l'agent orange, il est impossible qu'il y ait un procès donc aux États-Unis. Ça c'est une chose qu'aujourd'hui qui est terminée. Et effectivement, mais après, je pense qu'il y a aussi un enjeu donc géopolitique. Ça c'est mon point de vue donc personnel entre le Vietnam et les États-Unis. Et donc aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat aux États-Unis et en fait parler de la guerre du Vietnam aux États-Unis c'est aussi quelque chose de très délicat. Et là je vais prendre un exemple. Il y a quelques mois j'étais donc à une mobilisation pour parler de l'agent orange qui était organisé par un mouvement climat, donc une organisation qui s'appelle Youth for Climate. Et en fait, il y avait une journaliste américaine qui venait nous poser des questions sur la mobilisation, et nous, on intervenait. Et quand j'ai parlé de l'agent orange, elle a dit que ça l'intéressait pas, que ça pourrait pas passer à la radio américaine. Je crois que c'était une des plus grosses radios américaines. Donc, à mon avis, il y a un gros tabou par rapport à la guerre du Vietnam, puisque c'est une guerre qu'ils ont perdue, et par rapport à l'agent orange aussi, quoi.
Donc, pourtant, c'est une des guerres qui était le... Pardon. Pourtant, c'est une des guerres qui était le plus médiatisée. Enfin, aux États-Unis, on a parlé de la guerre de l'Irak, mais pendant la guerre du Vietnam, la presse était du côté des Vietnamiens.
C'est vrai, il y avait un élan. Après, c'est vrai que pour l'instant, donc il y a, je sais qu'il y a pas mal de vétérans américains qui ont échangé avec notamment la VAVA, l'association des victimes de l'agent orange.
La VAVA, juste pour rappeler, la VAVA, c'est donc l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange.
C'est ça, effectivement. Ouais. Et c'est la VAVA qui avait porté plainte, donc dans les années 2000. C'est un procès qui avait débuté en 2004. Ils avaient été donc déboutés en 2009, pour être précis.
Voilà. Oui, alors pour en revenir là-dessus, et puis on va en terminer avec ça parce que là on t'a pris beaucoup de temps déjà. Qu'en est-il selon toi de la couverture médiatique de cet événement-là? Est-ce que même également en France, parce que tu parlais des radios américaines, mais est-ce qu'en France également, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là aussi, en tout cas de gêne à parler de ça? Ou est-ce que c'est tout simplement que les médias sont occupés à autre chose actuellement?
Alors, donc sur les médias français, donc dernièrement, il y a quand même eu un certain nombre d'articles dans les médias, dans la presse en France qui sont parus sur Age Orange. Et donc ça, c'est plutôt super. Notamment, il y a eu un portrait donc cette semaine de Martine Valo sur Trentonia dans Le Monde. Nous, on a publié une tribune de soutien semaine dernière avec plus de 550 personnes et organisations donc signataires, notamment des personnalités, des politiques, des militants, etc. Il y a notamment d'autres dossiers qui sont sortis, je sais pas, dans l'humanité, dans Politis. Je pense que dernièrement, quand même, les médias sont beaucoup plus saisis de la question. Et en fait, c'est vrai que ces dernières années, donc il y a eu quelques articles par-ci, par-là, mais il n'y avait pas forcément d'événements qui étaient un déclencheur pour permettre d'en parler, quoi. Et c'est vraiment lundi, donc ce procès, donc ces Pédouari, qui sont vraiment une occasion exceptionnelle pour la lutte, pour parler beaucoup plus de l'agent orange, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait une forme de déni. Je pense pas qu'il y ait de tabou par rapport à ça, puisque en fait. Il y a quand même en France on parle quand même beaucoup des pesticides, du glyphosate, hein, c'est des sujets qui sont régulièrement donc relayés dans les médias. Après, c'est vrai que de là à ce que ce soit relayé dans des médias qui sont plus traditionnels, etc., c'est plus difficile. Mais là, il y a quand même certains médias qui l'ont fait. Après, voilà, ça passe pas forcément encore au JT, etc., mais bon, c'est pas ça, enfin, on espère que ça viendra et que, en tout cas, ça permettra aux gens de connaître l'agent orange.
Tom, je te remercie énormément de nous avoir donné toutes ces informations, d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions. On va juste faire un petit résumé de la situation pour ces prochains jours. Eh bien, ces prochains jours, c'est évidemment le procès et donc le rassemblement le samedi 30 janvier. Donc tout soudain, le rassemblement place du Trocadéro à Paris à 14h30. Et puis, recommander évidemment à toutes les personnes de se rendre sur le site internet du collectif Vietnam Dioxine, donc www.vietnamdioxine.org, et bien entendu de signer la pétition.
C'est ça. Et puis n'hésitez pas aussi à relayer donc nos publications sur les différents réseaux sociaux et puis à nous suivre. Je pense que là donc l'actualité sera assez riche durant les prochaines semaines, les prochains mois, et que finalement même si la semaine prochaine c'est une semaine qui est décisive, ce qui sera décisif c'est aussi de garder la mobilisation intacte durant les prochains mois. Il ne faut pas que ce soit un one shot, mais que ce soit dans le temps. Jusqu'à ce que ces firmes soient condamnées par la justice.
Oui. Et puis juste pour en terminer, il me semble d'avoir lu que Trentonia sera présente lors du rassemblement du 30.
C'est ça. Elle sera présente aux côtés voilà du collectif évidemment et aussi donc du comité de soutien. Donc elle prendra la parole aussi pour envoyer un message aux personnes qui m'ont soutenu et pour partager puis échanger aussi. C'est important d'avoir ce genre de moment là, surtout dans ces moments là où on fait beaucoup de choses en virtuel, et puis de se rassembler puis pouvoir échanger, pouvoir évoquer la suite. C'est très important.
Ouais. www.vietnamdioxine.org. Merci beaucoup, Tom, et bon courage pour la suite des opérations.
Merci beaucoup à vous.
www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.